Jésus en série télé, Jésus en magazine, Jésus en vignette de vidéo YouTube, Jésus en mème, l'Apocalypse raconté en vidéo, Jésus et ses disciples en Lego, la Bible en Lego, Jésus en dessin animé, Jésus en film d'animation. Le monde chrétien, aujourd'hui, est devenu fou. Il a oublié la parole de son Dieu. Si vous pensez que Dieu n'a aucun problème avec toutes ces choses, je vous conseille de regarder ce qui suit. Parce qu'il ne s'agit pas de nos opinions, mais il s'agit de savoir ce que Dieu pense et ce que Dieu veut. On ne marche pas avec Dieu selon nos opinions. On marche avec Dieu selon sa volonté et selon sa parole. Et c'est ce qu'on a vu dans cette série de vidéos. Tous ces versets que je vous mets à l'écran, ce sont des versets que Satan a réussi à effacer. Alors non pas de la Bible, mais du cœur de la majorité des chrétiens aujourd'hui. C'est la parole de Dieu et les enfants de Dieu n'y font plus attention. Ils ont choisi de se diriger comme ils le veulent eux, comme ils pensent que c'est bien. Ils ont oublié la volonté du Seigneur, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'image. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résister. C'est la troisième partie de notre série sur l'apostasie. Elle sera en deux petites vidéos. Le retour des images, c'est un signe manifeste de l'apostasie. Dans cette vidéo, on verra que l'image, eh bien, c'est une abomination pour Dieu. Ensuite, on verra quel est le problème avec l'image. Pourquoi ça pose un problème à Dieu. Et il y aura une seconde vidéo qui nous parlera de l'image de Dieu, du danger de l'image en général. Et enfin, je terminerai par quelques conseils aux parents par rapport à ces questions. Alors, on va commencer tout de suite en examinant dans la parole de Dieu le problème que Dieu a avec l'image. Donc, dans l'Ancienne Alliance, c'est ni plus ni moins que le deuxième des 10 commandements. On va le lire tout de suite, Exode 20 et verset 4. « Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Donc là, vous voyez dans ce passage, clairement, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Dieu déclare que se prosterner devant une représentation quelconque est une iniquité. Alors, je sais que certains vont me dire « Oui, mais c'est parce que c'est se prosterner, c'est le fait d'adorer des faux dieux, c'est ça que Dieu a en vue. » On pourrait dire oui, sauf que Dieu va préciser les choses dans le même chapitre, un petit peu plus loin, au verset 22, Exode 20, 22. « L'Éternel dit à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. » Ça, retenez-le, on va y revenir. « Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. » Notez bien le « pour me les associer ». C'est très clair, Dieu insiste pour bien montrer au peuple qu'il ne veut aucune idole, y compris des idoles le représentant. Voilà, dès le départ, Dieu dit aux enfants d'Israël, pas d'idole, pas de représentation, que ce soit de moi ou d'autres dieux. Alors on va continuer parce qu'il faut voir vraiment d'autres textes, parce que certains vont toujours trouver à redire. Mais quand vous voyez l'ensemble des textes, il n'y a pas d'équivoque. Exode 32, verset 2, « Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Donc là encore, ils ont fait un veau d'or qui était associé à Dieu. C'était une image de Dieu. Et je ne sais pas si vous connaissez le chapitre, mais c'est un chapitre terrible, le chapitre 32, où la colère de l'Éternel s'enflamma et 3000 hommes périrent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait une représentation de Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu, voici encore un autre texte. Ésaïe 46, verset 5. « À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ?» C'est Dieu qui parle, hein, évidemment, au peuple. « Il verse l'or de leur bourse et pèse l'argent à la balance. Il paie un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils adorent et se prosternent. Ils le portent et ils le chargent sur l'épaule. Ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs. Rentrez en vous-même. » Voilà, Dieu reprend encore son peuple par rapport aux images. Et vous voyez bien au verset 5 qu'il est question de faire une image à l'égal de Dieu. Exode 34, verset 17, « Tu ne te feras point de Dieu en fonte. » Lévitique 19, 4, « Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point de Dieu en fonte. » Lévitique 26, 1, « Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dieu a en horreur les images. Lisez en entier, on ne va pas le faire là, mais on va en lire juste une partie, le chapitre du Deutéronome 4. Là, je commence au verset 12, mais vous verrez, c'est terrible. « Et l'Éternel parla du milieu du feu, vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. » Voyez, quand Dieu a parlé sur la montagne d'Horeb, il leur rappelle « Vous n'avez pas vu de figure ». Et au verset 15, « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. » Notez bien toutes ces descriptions-là. Dieu avertit son peuple de ne pas se faire de représentation de lui ou d'un faux dieu par une image d'homme, de femme, d'oiseau, de reptile, etc. Notez bien ça parce qu'on va en reparler pour le Nouveau Testament. Et enfin, ce passage terrible, Deutéronome 4, verset 23, « Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'a défendue. » Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel votre Dieu pour l'irriter, je prends aujourd'hui à témoin contre le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. » Là, le Seigneur nous avertit d'une chose très importante. Il va y avoir du temps qui va passer. Les enfants de tes enfants, vous voyez ça, ça fera longtemps qu'on sera établi. Ça fait longtemps qu'on est établi dans la foi. Et puis on se relâche. Et puis, bah tiens, voilà, quelques chrétiens bien intentionnés nous présentent des images, des représentations de Dieu, des représentations de Jésus. Ah oui, ah mais c'est pour les inconvertis. Ça peut les aider à croire, etc., etc. Et on oublie que c'est une chose que Dieu déteste. On oublie que c'est une chose que Dieu appelle iniquité. Et on oublie qu'il nous dit que si on fait ces choses, si on accepte ces représentations, on se corrompt, littéralement. Corrompre, ça veut dire pourrir. Hein. Voilà. Et Dieu nous dit, vous serez entièrement détruits. C'est terrible. Et le monde chrétien aujourd'hui a complètement oublié ça. Deutéronome 27, 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira « Amen ». Eh bien, je vous garantis que dans les milieux chrétiens aujourd'hui, lorsque vous parlez de représentation de Jésus, alors vous allez me dire « Oui, mais parce que là, il parle des images taillées ou des images en fonte ». Alors pourquoi il parle des images taillées et des images en fonte ? Parce que pour représenter la divinité il y a quelques millénaires, on n'utilisait pas des peintures. Pourquoi ? Parce que les peintures, c'était pas quelque chose qui durait. On utilisait de la pierre ou de la fonte parce que c'était des matériaux solides, durs et qui pouvaient donc durer dans le temps. Et on n'allait pas utiliser quelque chose d'éphémère pour représenter un dieu. On allait prendre quelque chose de solide. Mais on a bien lu dans le verset d'avant des représentations quelconques. Alors certains vont me dire « Oui, mais c'était dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. On n'est plus lié par ça. » Eh bien, allons-y, dans la nouvelle alliance. Acte 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Alors vous me direz, oui, mais parce que voilà, c'était des faux dieux, etc. On a déjà vu, hein, que ça soit des faux dieux ou que ça soit une représentation de l'Éternel, Dieu ne veut pas d'idoles. Et vous voyez bien que le Saint-Esprit est irrité à la vue d'idoles. 1 Corinthiens 10, 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Paul dit, fuyez l'idolâtrie, les représentations quelconques des choses d'en haut, etc., etc. 1 Thessaloniciens 1, 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Paul félicite les Thessaloniciens parce qu'ils ont abandonné les idoles, ils ont abandonné donc les images. Apocalypse 9:20, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Les idoles sont associées aux démons. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais c'est ce qui est dit littéralement ici. On est dans le Nouveau Testament là. Romains 1, verset 20. Souvenez-vous ce que je vous ai lu dans l'Ancienne Alliance. Ils, donc les hommes, sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Quand vous regardez une série télé comme The Chosen, vous voyez un homme pécheur qui représente Jésus. C'est un homme corruptible. Voilà, c'est littéralement ça. Et il ne s'agit pas de mon opinion. Il s'agit, tout ce que je vous ai lu là, c'est tout ce que le Seigneur nous donne dans sa parole. Et c'est ce qui est extrêmement inquiétant, c'est qu'on entend personne ou très peu de personnes s'indigner de ce qu'on représente Jésus. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles, vous voyez ce que je vous disais dans l'Ancien Testament. Rien n'a changé dans le Nouveau Testament. L'Apocalypse nous parle également de nombreuses fois d'une bête et de son image. Donc vous voyez bien que Dieu a un problème avec l'image, c'est clair et net, que ça soit l'image d'un faux Dieu ou que ça soit son image, je le répète. Dieu ne veut pas des images, on le verra dans un second temps pourquoi. Un dernier verset de la Nouvelle Alliance, le dernier verset de la première épître de Jean. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà. Alors, l'analogie de la foi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de regarder comment les disciples ont vécu les enseignements de Jésus. Jésus nous a donné des enseignements, bon ben voilà, on peut les comprendre d'une manière, d'autres personnes vont les comprendre d'une autre, mais lorsqu'on voit les disciples de Jésus mettre en pratique ces commandements, eh bien on a la bonne manière de le comprendre. C'est pour ça que la parole de Dieu ne nous donne pas que les évangiles, mais ensuite elle nous donne les actes des apôtres et puis les épîtres des apôtres pour nous montrer comment bien comprendre les anciennes et donc comment bien vivre les enseignements de Jésus. Donc, l'évangélisation des apôtres, est-ce qu'ils l'ont fait par le théâtre? La réponse est non. L'adoration par l'image, la peinture, les statues, est-ce qu'ils ont fait ça? La réponse est non. L'enseignement par des fresques murales, on se sert de tableaux pour représenter les enseignements de Jésus. Ben, non, ils n'ont pas fait ça non plus. Donc, est-ce que nous, on est amenés à faire ça? Non. Oui, mais quand même, les enfants, est-ce que c'est bien qu'ils aient un petit dessin animé avec Jésus? Non, pas du tout, il n'y a pas besoin, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Il n'y a absolument pas besoin. Et on va même aller plus loin, on va maintenant voir quel est le problème avec l'image. Alors, premièrement, l'image ne peut pas communiquer la vérité. Ça n'est pas possible. Vous voyez cette belle pomme? Bon. Eh bien, cette pomme, je vous pose simplement la question. Est-elle acide ou sucrée? Suave ou fade? Juteuse ou farineuse? Véreuse? Voyez, vous n'avez que l'image. Vous ne pouvez pas me répondre. Parce que l'image ne vous donne pas l'information. L'image ne représente que l'extérieur des choses seulement. L'image est incapable de décrire précisément la vie intérieure. Je pense que tous, plus ou moins, vous avez dû faire cette expérience d'avoir lu un jour un livre et puis de l'avoir vu ensuite en film. Et en fait, vous avez majoritairement été déçu du film parce que le livre était plus profond. Il manquait des choses au film, il manquait une profondeur qui ne se trouve que dans le livre. Eh bien oui, parce que c'est ce que fait la parole. La parole, elle peut vous décrire l'extérieur de quelque chose, mais elle peut aussi vous décrire l'intérieur. L'image vous arrête à l'extérieur. Et pire, l'image trompe souvent sur l'état réel d'une chose. Celle-ci peut sembler bonne extérieurement et pourtant être mauvaise. Eh oui, et c'est précisément l'enseignement qu'est venu nous révéler Jésus, où il disait aux pharisiens, vous êtes tout joli au dehors, mais au dedans, vous êtes plein de rapines. Et ça, il n'y a que la parole qui peut nous le montrer. Genèse 3, verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » C'est la vue qui a trompé et convaincu Ève. Elle a vu que l'arbre était bon à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui lui a dit ça? le serpent lui a fait une suggestion, et puis c'est la vue qui a validé cette suggestion. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. L'homme spirituel regarde à la parole seule. Pourquoi ? Parce que l'image ne communique pas la vérité. Deuxième point. Le véhicule de l'esprit est la parole. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous parle principalement par la parole. Jean 1 et verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Ce n'était pas l'image. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est extrêmement important. Ne croyez pas qu'avec l'image, vous allez susciter la foi. Si la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, elle ne nous dit jamais « la foi vient de ce que l'on voit ». Non, ça n'est pas vrai. Regardez bien comme la parole est liée à l'esprit. Jean 3, verset 34. « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Esprit et parole sont liés. Jean 6, verset 63. « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce sont les paroles qui sont esprit et vie. C'est pas l'image. 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons du cœur. L'esprit de foi nous fait parler. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Encore une fois, un lien entre la parole et l'esprit. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et un dernier, Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole et l'esprit sont toujours liés. Et si vous n'en êtes pas convaincu, voici le récit des souffrances physiques de Jésus dans l'évangile de Luc. Il y a 3 versets sur les souffrances physiques. Je vous les donne ici, je ne vais même pas vous les lire pour gagner un peu de temps. Voilà les 3 paroles qui nous décrivent les souffrances physiques. Voilà. Alors, je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'au début des années 2000, Mel Gibson a fait un film sur la souffrance de Jésus qui s'appelle La Passion du Christ. 2 heures sur les flagellations, les souffrances de Jésus montrées à l'image. Donc, est-ce que vous voyez le décalage entre la parole de Dieu écrite dans les évangiles et un film d'Hollywood ? Luc, l'évangéliste, a jugé bon de nous donner ces 3 petits versets pour nous parler des souffrances de Jésus. Hollywood nous en donne 2 heures d'image. Vous voyez bien que le décalage est énorme entre ce que Dieu nous donne et ce que Hollywood nous donne. Ne vous laissez pas séduire. L'image nous amène à de l'émotion et du sentimentalisme qui ne produisent pas la foi. C'est la foi qui nous sauve. Même la vue d'un miracle n'est pas capable de produire la foi. Les pharisiens ont vu les miracles de Jésus et ils n'ont pas cru en lui. Ça n'est pas un dessin animé sur Jésus qui va donner la foi à vos enfants. Voilà. Des milliers d'hommes l'ont vu multiplier les pains et seuls 120 étaient dans la chambre haute à la Pentecôte. C'est-à-dire que tous ceux qui ont vu les miracles de Jésus n'ont pas cru en lui. Ce n'est pas la vue qui donne la foi. C'est tous ceux qui ont reçu sa parole qui ont cru en lui. Ni plus ni moins. Troisièmement, Jésus veut des témoins. Ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, plus en détail. Un témoin parle de ce qu'il a vu. Nous n'avons pas vu physiquement Jésus. On est bien d'accord. C'est donc seulement ce que nous vivons avec lui dont nous pouvons témoigner. Voilà pourquoi nous devons le chercher pour être de véritables témoins. Anciennement, les prophètes ont transmis aux hommes les paroles de Dieu, hein, pas les images de Dieu. Les témoins de Jésus sont amenés à incarner eux-mêmes l'évangile, à incarner la parole de Dieu, littéralement. Le théâtre existait au 1er siècle. Jamais les apôtres n'ont utilisé le théâtre pour évangéliser ou enseigner. Jamais. La peinture existait au 1er siècle. Bien qu'ils ne soient pas tous lettrés, voyez, ils ne savaient pas lire et écrire. Ils auraient pu utiliser la peinture comme un moyen de transmission. Eh bien, jamais les apôtres n'ont utilisé la peinture pour évangéliser ou enseigner. Dernier point, représenter Dieu est un blasphème. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a lu au départ. Je vais simplement vous dire que lorsque vous lisez « que ton nom soit sanctifié », eh bien, cela signifie littéralement « que ton nom soit mis à part ». Alors, j'ai une question pour vous. Mis à part de quoi ? Jésus nous enseigne à prier, le Père, en disant « que ton nom soit mis à part ». Mais mis à part de quoi ? La réponse est toujours dans la Bible. À part du monde et de ce qui est dans le monde. Je vous ai mis une petite référence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on représente Jésus en personnage d'un dessin animé, on en fait un héros parmi d'autres. Il n'est pas à part. Il n'est pas à part. Il y a les Avengers, il y a les Marvel, et puis il y a Jésus en film d'animation. Et puis il y a Samson en film. Et en plus, quand on représente Jésus, on représente toujours un personnage beau, souriant, sympathique, alors que l'attitude de Jésus est souvent tout autre. Voilà, regarde, lisez ça. Luc 14, 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Il y avait de grandes foules qui faisaient route avec Jésus, et il leur dit une chose pareille. C'est pas engageant du tout. C'est pas du tout la représentation qu'on fait de Jésus dans les dessins animés. Et vous voyez tout ça, le problème de tout ça, c'est que c'est un autre Jésus qui va progressivement s'installer dans le cœur des croyants. Et il sera de plus en plus éloigné du véritable Jésus. Dans les représentations qu'on vous fait au cinéma, dans les séries télé, Jésus est cool, Jésus est sympa, Jésus plaisante. Alors, je n'ai pas vu la série The Chosen. Depuis ma conversion, je n'ai jamais regardé de film biblique qui représente des personnages bibliques. Mais j'ai écouté, je dis bien écouté, je n'ai pas regardé, j'ai écouté les dialogues d'une vingtaine de minutes de The Chosen, où Jésus est moqueur, où Jésus se fait poète, où il demande son avis à un disciple sur le sermon sur la montagne, pour voir s'il ne faudrait pas qu'il change des petites choses. Mais c'est un blasphème tout ça. Ne vous laissez pas tromper. Je vous en supplie, ne vous laissez pas tromper par ces choses. Jésus n'est pas un héros de série TV ou de film. Les apôtres et les prophètes ne sont pas des héros de film. Les scènes décrites dans la Bible ne sont pas appelées à être représentées en images ou en vidéo. Parce que vous avez l'IA, maintenant, qui vous fait Moïse qui fait des selfies en traversant la mer Rouge, en vidéo. Et ça amuse les chrétiens, et ça, on trouve ça super. Et c'est fun, c'est rigolo, mais on oublie complètement que Dieu a ces choses-là en horreur. Ne vous laissez pas abuser. On trouve sur YouTube des chaînes consacrées à la représentation des scènes de l'Apocalypse. Ce que des peintres, au Moyen-Âge, ont déjà fait, hein. Représenter une bête avec 7 têtes et 10 cornes, ça n'a aucun intérêt pour votre foi. Et cela ne peut qu'amener de la confusion et vous empêcher de recevoir le véritable message spirituel. Donc, je vous en supplie, ne regardez pas ces choses. Quand les hommes adoraient les statues, Dieu ne voulait pas qu'on l'associe aux statues. Aujourd'hui, les hommes adorent des acteurs, les icônes modernes. Pensez-vous que Dieu veut être associé à des acteurs ? Mais c'est clairement pas possible, c'est clairement pas possible. En représentant par l'image les choses d'en haut, les hommes rabaissent la parole et la vérité de Dieu à leur petite vision terrestre. C'est extrêmement grave et Dieu jugera cela. Et vous savez, c'est déjà arrivé dans le passé. Un cas similaire existait déjà dans l'Ancienne Alliance. Pour sauver les Hébreux des serpents qui les mordaient dans le désert, Dieu a fait faire à Moïse un serpent d'airain afin que ceux qui avaient été piqués soient sauvés en le regardant. Bon. Je pense que vous connaissez cette histoire. Eh bien, voici ce qui s'est passé quelques siècles plus tard. Deux rois, chapitre 18, versets 3 et 4. Donc, c'est le roi Ézéchias. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître des hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néoustan. Voyez, Dieu les avait sauvés par un serpent d'airain de la mort. Et ce serpent d'airain, ils en ont fait une idole devant qui ils brûlaient des parfums. Mais c'est exactement ce qu'on a fait avec Jésus. Le catholicisme a fait exactement la même chose. Dieu nous a sauvés par Jésus. Le catholicisme a représenté Jésus sur la croix et s'est prosterné devant cette représentation. Mais c'est exactement ce que le monde chrétien en général fait aujourd'hui avec tout ce dont je vous ai parlé. Donc 1000 ans plus tard, sous le roi Ézéchias, on apprend que cet objet était un objet d'idolâtrie. Idolâtrie que Dieu condamne et qu'Ézéchias va faire disparaître. Pourtant, 2500 ans plus tard, les hommes n'ont toujours pas compris et continuent à représenter celui qui est leur salut et se prosternent devant son image. On se retrouve très vite dans la seconde partie de cette vidéo. Que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse.